Permettez-moi de me présenter, c'est-à-dire de nous présenter, Francine et moi. Je suis le mari de Francine, qui est là depuis plus de 35 ans et de plus en plus heureux de l'être. C'est une petite femme que Dieu m'a donnée, que j'aime de plus en plus. Et ça, c'est important que les jeunes entendent ça, que par la grâce de Dieu, en vieillissant, on peut s'aimer de plus en plus. Ça a été l'amour de ma jeunesse, mais on s'aime de plus en plus. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu de difficultés de parcours, mais ça veut dire que la grâce de Dieu est suffisante pour renouveler notre amour. Et ça, il faut y croire de tout notre cœur. C'est là qu'est notre puissance comme croyants. Francine et moi sommes les parents de trois grands garçons et très fiers de l'être. Francis, notre plus vieux, qu'on vient de visiter en Alberta, à Red Deer, en Alberta, Étienne et Christian. Et nous sommes aussi les heureux grands-parents de cinq petits-enfants qui font notre joie. Avant d'être grands-parents, on ne savait pas ce que c'était la fibre grand-parentale, la connexion qui existe entre des grands-parents et des petits-enfants. Puis quand on a commencé à en avoir, on les a tout de suite aimés. Et là, on a rencontré notre petit bonhomme sur la diapo précédente, là, notre petit bonhomme Oliver Locksley. C'est tout un nom, ça. Oliver Locksley Guy, tu sais, ça fait tout un nom. Mais moi, je l'appelle Olivier, c'est plus simple. Mon Olivier verdoyant, qui a 4 mois, puis notre petit Aramis, puis on a trois autres petits garçons. Et sur le plan spirituel, je suis croyant depuis octobre 1974. Je me suis converti dans ma première année de cégep et je suis profondément reconnaissant à Dieu d'être croyant. Et je suis de plus en plus fasciné par les vérités simples mais si profondes de l'Évangile. L'amour de Jésus qui était dans son royaume, qui est descendu sur la terre, qui a enlevé sa couronne et qui est venu comme un simple serviteur, comme un simple esclave, jusqu'au point de donner sa vie, de sacrifier sa vie pour nous. C'est fascinant. Au début de ma vie chrétienne, j'étais fasciné par ces vérités-là. Puis après quelques années de vie chrétienne, je me suis mis à aimer les vérités un peu plus compliquées, un peu plus théologiques. Puis ensuite, je suis allé au séminaire théologique, j'ai étudié le grec, l'hébreu. Puis là, je suis devenu très intellectuel. Puis avec le temps, je deviens de nouveau fasciné par les vérités spirituelles de base, mais qui sont tout, et dans lesquelles les anges ne cessent de plonger leur regard. Être pardonné de tous ses péchés, c'est merveilleux. Au moment où je vais mourir, il n'y aura aucune condamnation pour moi devant Dieu, mais je vais entrer directement au ciel et des milliers d'anges vont m'accueillir et vont dire « Bernard, le bien-aimé de Dieu, on est content de te voir. » Et moi, je vais être dans la joie puis je vais me sentir un peu embarrassé puis je vais dire « Je ne mérite vraiment pas ce genre d'accueil. » Et les anges vont s'empresser de me répondre « C'est Jésus qui l'a mérité pour toi. » C'est ça ta foi, l'essence de ta foi, le plus important de ta foi. Et je travaille à temps plein dans l'œuvre du Seigneur depuis 32 ans. Et je suis très heureux de pouvoir le faire, quoiqu'à certains moments, je me sens fatigué. J'ai commencé à réaliser que je vieillissais. J'ai réalisé seulement depuis 2-3 ans que je vieillissais. Parce que les hommes d'un certain âge vivent une seconde adolescence. Il y a 10 ans, je me suis mis à faire du vélo, j'ai perdu 50 livres. Tu sais, j'étais comme dans ma seconde adolescence. Puis là, après 10 ans, on dirait que ça ralentit. Là, je me suis dit, Bernard, tu vieillis? Et des fois, je me sens fatigué, vraiment fatigué. Puis je me dis, comment je vais faire pour passer à travers ce que Dieu me demande de faire? Et c'est comme pour mon couple. Je crois que par la grâce de Dieu, je vais trouver la force et la puissance pour continuer de faire ce que Dieu me demande de faire. J'ai déjà expérimenté sa puissance et je continue de l'expérimenter et je trouve ça extraordinaire. Quel est notre thème d'aujourd'hui? Diapo 7. Vu que je ne suis pas mes notes à 100%, mais je mentionne le numéro de la diapo de temps à autre. Bon, on m'a dit que j'avais 5 minutes pour introduire mon thème, mais moi, mes introductions sont toujours très longues. J'arrive au message, puis il me reste presque plus de temps, mais disons qu'il n'y a pas de trappe ici qui va s'ouvrir pour m'engloutir, ce qui m'aurait rendu un peu nerveux parce que j'ai écouté beaucoup de films de science-fiction dans ma jeunesse, puis mon imagination est très fertile. Il y a une autre chose qui pourrait me rendre nerveux aussi, c'est que Yannick m'avait demandé de prendre un des thèmes de la lettre de Jean et de vous le présenter à partir d'un texte biblique ailleurs dans la Bible. Mais anarchique que je suis, j'ai décidé de suivre une autre piste. Je me suis demandé quel était le problème majeur et global que l'apôtre Jean visait à corriger dans sa lettre, d'un Jean. Et tout de suite, le mot « dichotomie », le grand mot « dichotomie » m'est apparu. Et c'est pourquoi j'ai donné à mon étude de ce matin le titre de « Ces dichotomies qui déplaisent à Dieu ». Est-ce que vous savez c'est quoi une dichotomie? C'est très simple, écoutez bien ça. C'est la division d'une chose en deux. C'est la division d'une chose quelconque en deux éléments. C'est ce qu'on appelle une dichotomie. C'est pas trop compliqué, hein? Il y avait une chose, puis après ça, il y en a deux. Mais sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de dichotomie qui déplaise à Dieu, on parle de choses qui ont été séparées et opposées alors qu'elles auraient dû demeurer ensemble. Et c'est de cela qu'on va parler ce matin, parce que l'apôtre Jean dénonce dans sa lettre au moins 3 dichotomies qui étaient inacceptables et que les faux docteurs se plaisaient à encourager dans l'Église du Seigneur. Et la première dichotomie qu'il dénonce et corrige dans sa lettre est l'idée qu'une personne pouvait connaître Dieu et vivre en communion avec lui, mais tout en continuant de vivre dans le péché. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un Jean est structuré de façon cyclique. Ça veut dire que Jean exprime d'abord une vérité, puis ensuite il la répète dans un deuxième cycle, puis il la répète encore dans un troisième cycle. Alors, il y a plein de versets qui nous disent ça. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, c'est-à-dire qui observe sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, c'est-à-dire complet, d'après le sens du mot grec. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, 3 et 4, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et connaître Ginosko en grec, ça ne veut pas seulement dire connaître intellectuellement, mais ça veut dire avoir une relation spirituelle avec lui. Ça dépasse la connaissance intellectuelle qu'on pourrait avoir de Dieu ou la connaissance théologique qu'on pourrait accumuler à son sujet. Et il y a plein d'autres versets qui répètent dans Jean la même idée, c'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre que tu connais Dieu si tu continues de pratiquer le péché. On pêche tous encore. Vous êtes d'accord? Même Jacques, qui était le leader de l'Église de Jérusalem, a dit « nous bronchons tous, sans exception, de plusieurs manières, même si ça fait des années qu'on suit le Seigneur, qu'on cherche à lui plaire, à lui obéir. » Malheureusement, on pêche encore, mais on ne vit pas dans le péché comme avant. Mais si quelqu'un me dit, Bernard, je me suis converti au Seigneur, mais je vis encore avec ma blonde, puis je vais encore faire mes parties, puis Puis, je ne déclare pas nécessairement tout aux impôts. Puis là, si j'entends la personne me raconter sa vie, puis que finalement, je vois que rien n'a changé, je me dis, cette personne-là s'illusionne en pensant qu'elle est devenue chrétienne, elle ne l'est pas. Quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, il te fait vivre une nouvelle naissance. Il doit y avoir un commencement de vie nouvelle. C'est sûr que tu ne deviendras pas parfait du jour au lendemain. Tu ne vas pas régler toutes tes mauvaises habitudes du jour au lendemain. Puis tu vas encore lutter avec certains péchés plus tenaces. Dieu le sait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu t'a pardonné en bloc tous tes péchés. De telle sorte que tu n'as pas à avoir peur d'être rejeté quand tu tombes. Tu as juste à te relever et à dire « Seigneur, pardon et merci pour le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. » La deuxième dichotomie que Jean dénonce et corrige dans sa lettre est qu'une personne pourrait connaître Dieu et vivre en communion avec lui, mais sans toutefois aimer véritablement ses frères chrétiens et son prochain. 1 Jean, chapitre 3, verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » 1 Jean 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Pardon. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et je trouve donc Yannick a bien introduit son sujet tout à l'heure. Je me suis dit, waouh, quelle belle introduction inspirante, n'est-ce pas? Et je me suis dit, bien, qu'est-ce que Jean visait là, en faisant état de cette deuxième dichotomie? J'aime Dieu, mais j'aime pas mes frères. Si tu es en communion intime avec Dieu, Dieu t'intègre par son Saint-Esprit dans sa famille. Et Dieu, par le Saint-Esprit, va te donner de l'amour pour les frères et sœurs qui sont en communion avec Jésus. Oui, peut-être que les frères et sœurs sont différents de toi. Ils n'ont peut-être pas ton niveau d'éducation. Ils n'ont peut-être pas ta mentalité. Ils n'ont peut-être pas ton âge. Ils ne sont peut-être pas de ta nationalité quand même. Mais la communion fraternelle, c'est un miracle. C'est un miracle. Malheureusement, on se blesse parfois et on laisse l'amertume s'emparer de nos cœurs au point qu'on cesse de s'aimer les uns les autres. C'est souvent ce qui arrive. Mais franchement, quand je pense à mes 40 quelques années, 40, plus de 42 ans de vie chrétienne, je me dis, waouh, qu'est-ce que tu as vécu avec les frères et sœurs Bernard durant ces 42 ans-là? Et je peux vous assurer que j'ai vécu beaucoup plus de bons moments que de blessures et de moments difficiles. Oui, il y a quelques frères et quelques sœurs qui m'ont écorché dans le parcours. Puis à certains moments, ça m'a fait vraiment mal. Et ça m'a pris la grâce de Dieu pour leur pardonner. Mais en général, j'ai connu dans l'Église de Dieu un amour, une sollicitude, une sympathie, pour ne pas dire empathie, que je ne retrouve pas ailleurs dans la société. Et je ne vous dis pas que les non-croyants ne sont pas capables de s'aimer les uns les autres. Parce que les non-croyants sont faits à l'image de Dieu, ils portent l'imago Dei en eux. Et cette image n'a pas été complètement détruite en eux. Donc les non-croyants sont capables d'amour, ils sont capables de bons gestes, ils sont capables d'altruisme. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi et produit son fruit, et que tu vis en communion étroite avec Dieu, tu commences à aimer tes frères et sœurs, à commencer par ceux qui vivent près de toi. Et ça, c'est une puissance extraordinaire. Mais si tu te dis croyant et que tu n'aimes pas les frères, d'aucune manière, et que tu n'es pas prêt à sacrifier quoi que ce soit de ta petite vie, de ton petit confort pour eux, c'est un très, très mauvais signe. Il y a une dernière dichotomie, une troisième, que Jean dénonce dans sa lettre. C'est celle qui fait que Jésus, l'homme, n'aurait pas pu être le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que j'insiste dans sa lettre que celui qui connaît Dieu, c'est celui qui a cru que Jésus, l'homme, était bel et véritablement le Fils de Dieu. D'où provenaient ces dichotomies? Elles provenaient de ce qu'on appelle le dualisme grec. Selon la pensée dualiste, ça ressemble à dichotomie, là, hein? C'est deux choses qui sont opposées, le dualisme. Selon la pensée dualiste de la philosophie grecque, l'esprit et le monde spirituel étaient bons, mais la matière et le corps humain étaient mauvais. Donc, il ne pouvait pas y avoir de réconciliation entre les deux. C'était impossible, parce que c'est des choses qui s'opposaient. Au niveau de la moralité, il en résultait deux conséquences. Il y a certains Grecs qui se disaient, ben, vu qu'il n'y a pas de relation entre mon esprit et mon corps, je peux faire ce que je veux avec mon corps, je peux pécher allègrement avec mon corps, mais ça n'affectera pas mon esprit. Puis je pense que c'est l'erreur que Jean corrige dans sa lettre lorsqu'il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Comment les gens à qui Jean s'adresse pouvaient-ils dire qu'il n'y avait pas de péché? Ben, c'est parce qu'ils péchaient avec leur corps, mais ils ne péchaient pas avec leur esprit. C'est un peu philosophique ce que je vous raconte là, ce matin. L'autre application que les gens faisaient du dualisme grec, c'était d'essayer de détruire les appétits du corps pour libérer l'esprit. Et on retrouve ça dans Colossiens, entre autres, Colossiens 2, 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Fais mourir les appétits du corps, puis comme ça, tu vas permettre à l'esprit d'être libéré. Puis l'autre problème, comme je l'ai mentionné, c'est que Jésus, l'homme, ne pouvait pas être le Fils de Dieu, le Dieu-homme, parce que Dieu est esprit, Jésus est matière, et les deux ne peuvent pas se réconcilier. Alors ces gens-là ne croyaient pas en Jésus-Christ tel que révélé dans les Écritures, et à cause de cela, ils étaient éloignés du salut éternel par les faux docteurs. Oui, mais Bernard, me direz-vous, so what? Quelle importance est-ce que cela a-t-il pour nous aujourd'hui qui ne sommes pas influencés par le dualisme grec? Bonne question. En d'autres mots, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Qu'est-ce que ça donne? En sortant mes gros mots, les dichotomies, le dualisme grec et tout, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai épargné d'autres explications plus techniques encore. Bon. Et je me suis dit, nous ne sommes peut-être pas influencés par les dichotomies provenant de la pensée dualiste grecque, mais nous sommes quand même influencés par d'autres courants de pensée qui produisent aussi dans nos vies des dichotomies qui plaisent à Dieu. Et je reviens à mon thème, là. Et vous allez voir, ça va devenir éminemment pratique. Le phénomène des dichotomies qui déplaisent à Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un phénomène qui découle seulement de la philosophie grecque ou de la philosophie juive ou autre. C'est un phénomène qui découle de notre cœur humain. Et vous allez comprendre pourquoi. En citant les paroles du prophète Isaïe dans Isaïe 29, 13, Jésus dénonce dans Matthieu 15, 8, et Marc aussi le fait dans son évangile, une dichotomie dans laquelle les Juifs de son temps avaient sombré. Et qu'est-ce que Jésus dit en décrivant les gens de son peuple? Comment est-ce qu'il les décrit? Ce peuple, m'honore des lèvres. Sa doctrine est bonne, son credo est bon, son enseignement est bon. Jésus a dit des pharisiens, écoutez tout ce qu'ils vous disent, tout ce qu'ils vous enseignent, leur enseignement est bon. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est une dichotomie. Deux choses séparées qui auraient dû rester ensemble. Notre credo, nos cantiques, notre cœur, notre vie de tous les jours. Il ne faut pas que ça se sépare, ça. Vous comprenez? C'est extrêmement important que ça demeure ensemble. Parce que lorsque c'est ensemble, on vit dans la spiritualité. Mais lorsque ces deux choses-là se séparent, on vit dans la religion humaine. Et permettez-moi de vous donner une image pour vous expliquer la différence entre la vraie spiritualité et la religion humaine. Et l'image que j'ai trouvée pour l'expliquer, c'est l'image de la commode. L'image de la commode. Si tu vis dans la spiritualité, c'est toute la commode qui va décrire ta vie spirituelle. La commode entière, le meuble et tous les tiroirs de ta vie vont s'insérer dans la commode. Et tout ce que tu vas faire en parole ou en œuvre, tu vas le faire avec un désir dans ton cœur de plaire au Seigneur Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Tu vas te lever le matin, tu vas faire ton déjeuner. Tu vas peut-être laver un peu de vaisselle, mais tu vas le faire pour Dieu. Tu vas peut-être changer la couche d'un bébé. Caca moutarde, peut-être. Grand-papa en a vu. Et on a élevé trois garçons, puis dans notre temps, on avait juste des couches en linge, parce que Francine était quand même assez... à l'avant-garde. C'est moi qui prenais les couches avec tout ce qu'il y avait dedans puis qui les trempais dans le bol de toilette. Et ça ne me dérange pas pantoute. Il n'y a rien là. Ça m'a fait plaisir de le faire, vraiment. Je le referai encore aujourd'hui. La seule chose, par contre, que je regrette de ne pas avoir su ce qu'il existait des petits carrés de linge qu'on pouvait mettre dans le fond de la couche pour ramasser le plus gros. Ça, quand j'ai vu que ça existait déjà depuis quelques années, je me suis mordu les lèvres, j'ai dit à Francine, on a manqué un tournant là, de la vie moderne. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, il y a des gens qui se disent, ah ben moi, je ne suis pas dans le ministère, je ne suis pas dans les équipes de louange, je ne suis pas moniteur à l'école du dimanche. Donc, je ne vis pas à 100% pour Dieu. Et je ne peux pas me maintenir dans la spiritualité. Faux. Tout ce que vous faites, que tu travailles dans une usine, que tu travailles dans un bureau de médecin, dans un bureau d'avocat, dans un bureau d'ingénieur, que tu sois prof à l'école ou concierge ou n'importe quoi, tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur pour le Seigneur Dieu, avec la force qu'il te communique, avec l'inspiration qu'il te donne. Et tu vas être une lumière dans ton milieu et tu vas vivre dans la spiritualité. Donc, il faut que ta spiritualité, ça soit la commode tout entière dans laquelle s'insère chaque tiroir de ta vie, incluant tes loisirs. Tous tes loisirs. Que ça soit ton écoute de film ou ta partie de golf ou n'importe quoi. Fais tout pour la gloire de Dieu et demeure en communion avec Dieu du lundi au vendredi, à temps pas au dimanche. Mais la religion, c'est seulement un des tiroirs de la commode. Si tu es dans la religion humaine, c'est que ta spiritualité va être un seul tiroir que tu ouvres de temps en temps. Et tout le reste de ta vie va se passer en dehors du Seigneur, en dehors de la spiritualité. Et c'est là qu'il va y avoir une dichotomie dans ta vie. Ce peuple, mon ordre d'élève, il ouvre le tiroir de la religion de temps en temps, à des heures fixes, à des jours fixes, mais son cœur, sa vie quotidienne m'échappe. Ce n'est pas moi qui contrôle leur vie quotidienne. C'est autre chose, soit eux-mêmes ou les valeurs ambiantes de la société ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle une dichotomie qui est vraiment désagréable au Seigneur. Et pour être encore un petit peu plus pratique, je me suis demandé pourquoi est-ce que notre vie spirituelle se transforme souvent en religion humaine? Vous avez bien compris la différence? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est des mauvais chrétiens? Est-ce que c'est parce qu'on est mal intentionné? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le goût de servir Dieu? Je ne pense pas. Il peut y avoir quelques personnes, une minorité de personnes parmi nous qui jouent la mascarade, mais ce n'est pas la majorité. Moi, je suis certain que la majorité des gens qui sont ici ce matin désirent plaire au Seigneur de tout leur cœur. C'est ma conviction. Et même si je ne vous connais pas, je vous donne le bénéfice du doute. Je suis certain que c'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que la dichotomie s'installe dans nos vies? Et j'aimerais, en terminant, il me reste 15 minutes, hein? On a commencé à moins quart, 15 minutes, incluant ma prière. Bon. Ça va peut-être être une chanson. Je pense que nous, les prédicateurs, on n'a pas suffisamment parlé de la grâce de Dieu. On a beaucoup parlé de la grâce de Dieu dans notre évangélisation. Moi, je suis un bout de temps, je suis croyant, puis quand on a, on peut enchaîner. Quand on m'a annoncé l'Évangile, on a insisté pour dire, Bernard, le salut éternel, c'est pas par les œuvres. C'est pas par les œuvres. Puis là, on m'a lu Éphésiens 5 à 8 à peu près une centaine de fois. Puis le verset aussi dans Tite qui dit à peu près la même chose. Puis on a essayé de me faire comprendre que je pouvais pas mériter la faveur de Dieu, mais que le salut éternel allait m'être donné comme une faveur imméritée de la part de Dieu que je devais saisir par la foi. Puis là, quand je suis arrivé dans la vie chrétienne, là, les prédicateurs ont commencé à me fouetter. Bernard, il faut que tu sois comme ci, comme ça pour plaire à Dieu. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis la petite boîte du diable là, dans ton salon, là, jette-moi ça à la poubelle. C'est vrai, ça je l'ai entendu. D'un excellent prédicateur en plus. Puis on se faisait fouetter comme ça chaque semaine. Puis après ça, moi, par mes forces naturelles, j'essayais de mettre tout ça en pratique et je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas. On ne m'a pas dit, Bernard, écoute bien, là. De même que tu as reçu le pardon des péchés, de même que tu as vécu ta conversion initiale au Seigneur Jésus par la grâce, il va falloir que tu apprennes à vivre la vie chrétienne par la grâce, c'est-à-dire en comptant sur la puissance de Dieu que tu ne mérites pas, mais qu'il va te donner parce qu'il t'aime et parce qu'il vit en toi et parce qu'il t'a donné son Saint-Esprit. Maintenant, on va regarder les diapos suivantes, s'il vous plaît. Ça, c'est les versets dont j'ai parlé concernant la conversion initiale. La grâce et la conversion initiale. Si on va à l'autre, l'expression que la grâce vous soit donnée figure plus de 33 fois dans le Nouveau Testament et elle est toujours adressée à des croyants. Que la grâce et la paix vous soient données. La grâce, mais pourquoi un vrai chrétien aurait-il besoin de grâce? Moi, je pensais que la grâce, c'était juste pour le salut éternel, mais maintenant que je suis sauvé, pourquoi est-ce que j'aurais encore besoin de grâce? Parce que je suis incapable de vivre ce que Dieu me demande de vivre dans la vie chrétienne. Je ne suis pas capable, par mes propres forces, d'aimer Francine comme Christ a aimé l'Église. Je ne suis pas capable. À certains moments de ma vie, je deviens égocentrique, concentré sur mes projets. Je suis un gars de projet. Puis j'en oublie les gens autour de moi. Puis là, je suis branché sur mon égo. Puis ça prend le Saint-Esprit pour me débrancher de mon égo et me faire revenir sur la planète. Pour prendre soin des gens qui m'entourent, parce que sinon, moi, je deviens absorbé, c'est pas possible. Francine en sait quelque chose. C'est une sainte. Elle était déjà au départ, mais là, elle l'est encore plus. On va passer à la prochaine diapo. Même l'apôtre Paul a dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est à cause de sa puissance de ma vie que je suis un homme transformé. J'étais un violent, un colérique, un orgueilleux quand j'étais dans ma religion juive et Jésus m'a rencontré sur le chemin de Damas et ensuite par le Saint-Esprit, par sa grâce, il m'a transformé et c'est par sa grâce que je suis devenu qui je suis, un homme humble, doux, un gars d'équipe. Moi qui étais un monstre d'égoïste, un violent, un meurtrier. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres dans le contexte. Mais comment obtenir la puissance que Dieu aimerait nous accorder dans sa grâce pour vivre une vie chrétienne victorieuse? Je vais vous expliquer ça en 5 minutes. Ah, quel beau bouton. Merveilleux bouton. Merci, Annie. Ou Chantal, je pense. Caroline, oh là là. Ça qui arrive à 59 ans. Notre mémoire devient comme un fromage gruyère plein de trous. Comment trouver la grâce pour vivre une vie chrétienne victorieuse qui n'est pas culpabilisante? Ben, je pense qu'il faut apprendre à peser sur le bouton de la grâce. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Ben, l'autre diapo va nous le montrer. Il y a 3 choses à faire pour peser sur le bouton. Il y a 3 étapes à suivre, là. Et la première étape, c'est de chercher à comprendre la volonté de Dieu, de dire « Seigneur Dieu, premièrement, je veux comprendre quelle est ta volonté dans tous les domaines de ma vie et je veux m'appliquer à faire ta volonté. » Si tu n'as pas ce désir-là dans le cœur, évidemment, tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de sa puissance. Mais moi, je vous donne le bénéfice du doute. Je pense que vous avez tous ce désir de servir Dieu, de lui plaire dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre relation avec vos enfants, au travail, dans vos loisirs et tout cela. Je vous donne le bénéfice du doute, frères et sœurs. Mais cherchez à connaître sa volonté, première chose. Même si sa volonté semble incroyablement exigeante, aimez son ennemi, pardonnez à des gens qui nous ont écorchés, persévérez avec un conjoint ou une conjointe qui ne sont peut-être pas notre idéal, puis qui ne sont pas toujours ouverts à changer. Et tant d'autres choses encore. Mais la première chose à faire pour peser sur le bouton rouge, c'est dire, Seigneur, je suis là, pas avec le rouleau du livre, parce que nous, c'est en livre, c'est en codex, hein, on a ça en livre, mais en tablette peut-être. Je suis là avec ma tablette pour faire ta volonté. Ou avec mon iPhone, avec la Bible dessus, évidemment. Première chose. Deuxième chose, dire avec humilité au Seigneur, « Seigneur, ce que tu me demandes de faire me dépasse. Je ne suis pas capable. Je suis incapable d'aimer mon épouse comme tu as aimé l'Église, c'est-à-dire de me sacrifier pour elle parce que je suis égocentrique. Je ne suis pas un genre à me sacrifier. » Puis des fois, pour que tu arrives à pouvoir dire au Seigneur que tu n'es pas capable avec humilité, ça prend des expériences, d'épreuves, d'humiliation pour te faire perdre tes illusions et surtout tes réflexes, pour désarmer tes réflexes d'autosuffisance. Et ça, je pourrais parler longtemps de ça. Je pourrais vous parler des 40 ans de Moïse dans le désert. Je pourrais vous parler de Joseph qui a perdu ses illusions. Je pourrais vous parler de l'apôtre Pierre qui a perdu ses illusions au sujet de lui-même à travers des épreuves, à travers des moments difficiles. Mais si à chaque fois que le Seigneur t'éprouve pour t'humilier, mais pas t'écraser, mais simplement te faire perdre tes réflexes d'autosuffisance, si à chaque fois que le Seigneur t'éprouve un peu, tu raidis le coup et que tu deviens amer contre lui, comment pourras-tu atteindre l'attitude d'humilité qui est essentielle pour peser sur le bouton rouge de la grâce? Et moi, c'est après avoir vécu des échecs, des défaites, après avoir été humilié, que j'ai découvert l'existence du bouton rouge. Je me souviens, j'étais directeur à l'Institut biblique Bethel, ça a bien fonctionné un bout de temps, puis ensuite tout s'est écrasé et mon leadership a été une faillite dans un sens. Et j'étais humilié, puis il y avait un petit sentier de prière juste à côté de chez nous. Là, j'ai commencé à marcher avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis humilié. C'est comme si le Seigneur me disait, mais c'est ça qu'il faut. Tu étais tellement prétentieux, Bernard. Tu es arrivé à Bethel et tu pensais que tu allais tout changer, que tu étais le grand sauveur, il fallait que tu sois humilié. Oui, mais j'aime pas ça, Seigneur. J'aime vraiment pas ça. Ça me fait mal. Je me sens tout à l'envers. C'est ça qu'il faut. Mais je vais te consoler. Je vais te consoler puis je vais te montrer à vive par ma grâce, par ma puissance. Et ta vie chrétienne va prendre un nouveau tournant inimaginable. Je vais te ramener au surnaturel que tu as vécu lors de ta conversion à Jésus. Et il n'y aura pas de dichotomie dans ta vie. Ta spiritualité ne va pas se transformer en religion parce que je vais te ramener à la vraie spiritualité. Et la troisième étape, et je termine avec ça, il reste 5 minutes, c'est simplement de dire avec foi, Seigneur, ce que je ne suis pas capable de faire, tu vas le faire en moi par ta puissance. Tu vas déployer ta puissance dans mon cœur. Et tu n'as pas besoin de te sentir fort pour être fort dans le Seigneur. Tu as juste besoin de persévérer dans ce que Dieu t'a montré d'être et de faire. et ça va faire comme un dynamo. Plus tu vas avancer dans l'obéissance, plus la puissance de Christ va se déployer en toi et tu vas vivre des miracles. Le temps que je suis en train de vivre présentement dans ma vie chrétienne, c'est le meilleur temps que je n'ai jamais vécu de ma vie. Et vous savez pourquoi? Parce que je me sens faible. J'ai compris que j'étais faible. J'ai compris que j'étais inadéquat. J'ai compris que je n'y arriverais pas. J'ai compris que sans Dieu, je n'y arriverais pas. Et ma petite chanson, qui est une prière, la prière de la fin, dit exactement ça. Je ne vous raconte pas ma vie de chansonnier parce qu'elle vient juste de recommencer après 40 ans, mais je vous laisse avec cette petite chanson. Sans toi, Seigneur, je n'y arriverai pas. Mais avec toi, wow, avec toi, je vais vivre des choses extraordinaires.